L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
Agro j'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission d'AgroJécoute sur Campus FM. J'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lorena. Bonjour Lorena.
Bonjour Titouan. Nous sommes deux étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan, une école spécialisée en agriculture qui se situe à Toulouse. Donc nous avons Titouan qui nous vient des Hautes-Alpes et moi-même originaire du Pays Basque. Dans le cadre de notre projet de cinquième année, nous nous intéressons au marché agricole et on cherche à comprendre les dynamiques autour desquelles s'articulent les flux de marchandises mondiaux. Ce travail a été réalisé dans le cadre de notre domaine d'approfondissement en agroécologie.
Effectivement, ce domaine d'approfondissement vise à former des femmes et des hommes ingénieurs en agriculture et en agronomie qui sont capables de relever les défis de la transition agroécologique en agriculture. Et à ce titre-là, il nous a semblé particulièrement intéressant d'aborder le conflit ukrainien qui est tout à fait d'actualité, la guerre en Ukraine, sous le prisme de la question agricole et agroalimentaire. Et pour ce faire... On va essayer de réfléchir aux conséquences de la guerre en Ukraine sur nos systèmes agricoles et sur les marchés mondiaux de matières premières agricoles.
Exactement. Nous avons remarqué que ce conflit était souvent évoqué pour expliquer, comme vous avez dû l'entendre, l'augmentation des prix ou pour justifier la raréfaction de certaines matières premières. Souvenez-vous, en 2022, la pénurie de l'huile de tournesol qui avait conduit des fabricants à changer leurs recettes de fabrication, cela avait fait débat. Pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé durant cette période, nous avons voulu retracer les événements, en apportant quelques données contextuelles qui vont permettre de mieux comprendre le sujet. Mais d'abord, je vous laisse écouter ce premier extrait sonore.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La guerre après Loukas, Vladimir Poutine a lancé dans la nuit son offensive sur l'Ukraine et pas seulement dans l'est du pays. Des frappes ont eu lieu dans la capitale Kiev où nous serons dans un instant. Des explosions dans d'autres grandes villes aussi. Nous serons à Moscou où le maître du Kremlin a donc mis ses menaces à exécution. À New York où s'est tenue une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dans la nuit. À Paris où Emmanuel Macron réagit à l'instant. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires, dit le président. Et puis nous verrons ce que l'Occident compte faire ou ne pas faire pour aider l'Ukraine.
Vous l'avez sans doute reconnu, cet extrait du journal de France Inter du 24 février 2022, jour à lequel Vladimir Poutine avait décidé de mettre ses menaces à exécution en envahissant l'Ukraine. Si ce conflit a entraîné tout un tas de drames humains, de déplacements, de populations et de morts, vous le savez que nous sommes en école d'ingénieurs agronomes, donc nous allons nous intéresser à ce conflit par le prisme agricole. Et pour ce faire, dans un premier temps, il nous a semblé tout à fait pertinent d'essayer de présenter les systèmes agricoles de ces deux belligérants, à savoir la Russie et l'Ukraine. En commençant, s'il te plaît, Lorena, est-ce que tu peux nous présenter le système agricole russe ?
Commençons donc, oui, par la Russie. On peut qualifier la Russie de puissance agricole. Elle compte une surface agricole utilisée de 196 millions d'hectares, donc une surface environ 7 fois supérieure à celle de la France. On sait que 55% de ces terres cultivées le sont par 40 000 grandes fermes de plus de 5 000 hectares. Pour vous donner une idée, les plus grands stades de foot font environ 1 hectare. Donc imaginez des fermes qui font une surface de 5 000 stades de foot. En comparaison, la France est basée sur des exploitations d'environ 69 hectares. En ce qui concerne la politique agricole du pays, entre 2013 et 2020, la Russie décide d'investir dans le développement de son agriculture. Selon le Centre d'analyse de la CCI France-Russie, durant cette période, ce sont 52 milliards d'euros qui sont investis pour le soutien des agriculteurs via la modernisation du matériel ou le soutien des prix par exemple. Ces mesures ont permis le développement de fermes familiales, mais aussi et surtout la création d'agro-holdings, structures sociétaires très productives. En 2017, la Russie devient le plus grand exportateur de blé au monde, alors qu'elle était importatrice 20 ans auparavant. Elle est alors à 84 millions de tonnes de blé produits, et ses céréales sont exportées vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui importent chaque année la moitié de leurs besoins en blé, soit environ 50 millions de tonnes au niveau mondial. Voilà pour la Russie, Titouan. Je te laisse la parole pour l'Ukraine.
Avec grand plaisir, Lorena. L'Ukraine, c'est un pays donc, qui se caractérise par des terres noires extrêmement fertiles qui s'étendent sur près de 42 millions d'hectares. À titre de comparaison, la France, c'est 26 millions d'hectares. Hein, donc, c'est 5 fois plus grand que la SAU française. C'est un secteur, l'agriculture en Ukraine, qui a encore un poids extrêmement important dans l'économie. Ça représente 15% de son PIB. En France, on est à 2%. Et près de 20% de la population active travaille dans le secteur agricole. En France, c'est que 2,5%. Donc, un poids de l'agriculture extrêmement important dans l'économie en Ukraine. Qui sont les exploitations qui portent ce modèle agricole? Cohabitent en Ukraine différents types d'exploitations, des petites fermes familiales et aussi, à l'exact opposé, des grandes fermes capitalistes, c'est-à-dire le capital n'est pas détenu par la personne qui travaille sur l'exploitation. Et ce tissu productif permet à l'Ukraine d'être le premier exportateur mondial d'huile de tournesol, le deuxième exportateur de colza, le quatrième exportateur de maïs. Je vous fais pas toute la liste, mais vous avez compris, on a affaire à un vrai géant agricole. Et donc, si on cumule à la fois l'Ukraine et la Russie, on a deux mastodontes, et on comprend très vite qu'un conflit armé entre ces deux pays, tel que ça se passe depuis février 2022, va avoir de grandes conséquences sur les marchés mondiaux. Ukraine-Russie, hein, quelques chiffres, 28% des exportations de blé, 14% des exportations de maïs, 70% des exportations d'huile de tournesol. On est donc là face à des vraies problématiques en termes agricoles quand on voit les deux modèles agricoles qui se font face dans cette guerre.
Tout à fait, Titouan. C'est un conflit qui a engendré des tensions sur les marchés agricoles, notamment, comme on l'a mentionné auparavant, des ruptures d'approvisionnement. Ces tensions existaient déjà en 2021, après la relance de l'économie suite à la pandémie de Covid-19. Mais cette guerre en Ukraine n'est venue que conforter les insécurités et les problématiques qui se soulevaient à cette période. La première conséquence de ces tensions a été le blocage des matières premières dans les pays exportateurs comme l'Ukraine, par exemple, qui a provoqué une baisse de l'offre et, par effet mécanique, une augmentation du prix des matières premières. Pour avoir quelques chiffres, selon la FAO, au niveau alimentaire, jamais l'accès aux denrées n'avait été aussi coûteux. Cette crise engendre donc une fragilisation des systèmes agricoles, mais aussi des risques pour la sécurité alimentaire mondiale.
La deuxième grande conséquence de ce conflit, elle se situe au niveau des prix des fertilisants agricoles. Le prix de ces fertilisants a augmenté de 300% entre mai 2021 et mai 2022. Cette augmentation, elle est principalement le fait de deux choses. La première, c'est l'augmentation des coûts de l'énergie. Parce que dans la fabrication des fertilisants, l'énergie représente à peu près 50% des coûts de fabrication. Donc quand on voit comment a augmenté le prix du gaz, on comprend comment ont pu augmenter le coût des fertilisants. Et enfin, la deuxième raison qui explique l'augmentation de ces prix des fertilisants, ce sont les sanctions internationales qui pèsent sur la Russie à l'issue de l'agression et de l'invasion de l'Ukraine en 2022, et les restrictions russes aux exportations. Par un phénomène tout à fait classique, comme a expliqué Lorena, diminution de l'offre, stagnation de la demande, et donc in fine augmentation massive des prix des fertilisants. Cette guerre, elle a d'autant plus touché l'Europe que le continent européen importe près de 60% de ses fertilisants depuis la Russie et la Biélorussie. Donc là, on a vraiment une conséquence massive pour les agriculteurs européens de ce conflit ukrainien.
Enfin, une autre conséquence de ces tensions est l'augmentation du coût de l'alimentation animale, qui touche particulièrement les systèmes d'élevage. Cette alimentation est fournie en grande partie par l'Ukraine, en prenant l'exemple du maïs OGM, qui rend plusieurs pays dépendants, dont l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande. Il faut rappeler que l'alimentation sur une exploitation représente 60% du coût des charges et que cette augmentation remet en question la possibilité de continuer les systèmes d'élevage et soulève des questions sur la recherche d'alternatives et de solutions à ces dépendances.
Cette guerre, donc on vient le voir, a traversé trois grandes conséquences qu'on a identifiées, a profondément bouleversé les équilibres. Pour autant, un accord a pu être trouvé entre juillet 2022 et juillet 2023 pour créer un corridor d'exportation dans la mer Noire, pour justement exporter les céréales ukrainiennes qui ne pouvaient pas auparavant être exportées. Est-ce que, Lorena, tu peux un petit peu expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cet accord et qu'est-ce qu'il a permis en termes d'exportation ?
Oui, tout à fait. Donc d'abord, il faut savoir que l'Ukraine, via ce corridor d'exportation de la mer Noire, exporte 90% de ses marchandises. Donc c'est un corridor très important pour elle. L'accord céréalier, dont tu nous as parlé, est un accord signé par la Russie et l'Ukraine en juillet 2022. qui permet l'export des céréales ukrainiennes par la mer Noire, qui était bloquée par la guerre, du coup. La signature de l'accord se fait sous l'égide de la Russie, en présence du secrétaire général des Nations Unies, à Istanbul, dans un lieu stratégique qui est le Bosphore. Pour vous donner quelques chiffres, à cette période, ce sont pas moins de 20 millions de tonnes de blé qui sont bloquées en Ukraine. Et leur libération, comme nous l'avons dit auparavant, est un enjeu fort pour la sécurité alimentaire de certains pays, notamment les pays d'Afrique. Le but de cet accord était donc de garantir la mise sur le marché des marchandises ukrainiennes, malgré la guerre, et lutter contre les famines à venir. Cet accord a bien fonctionné, puisque près de 44% du blé exporté a été envoyé vers des pays à revenus faibles, dont 64% de ces pays étaient des pays en voie de développement. Et enfin, le Programme alimentaire mondial achète à cette période 8% du total du blé pour des opérations humanitaires. Mais c'était sans compter sur un souci à venir. En juillet 2023, cet accord n'est pas renouvelé par la Russie. Et je vous laisse écouter pourquoi.
Parce que Vladimir Poutine s'est retiré en juillet d'un accord qui permettait à ses exportations de continuer de passer par la mer Noire malgré la guerre, et parce que les attaques russes sur les ports ukrainiens se multiplient, résultat une flambée des prix du blé, lourde de conséquences.
Vous l'aurez peut-être reconnu, hein, cet extrait du dessous des cartes du 4 septembre 2023, hein, qui nous rappelle que la Russie n'a pas souhaité reconduire l'accord céréalier avec l'Ukraine. Bon, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer cela, mais une des principales raisons qui a été évoquée, c'est le souhait de Vladimir Poutine de réintégrer la banque agricole russe du système SWIFT. Hein. Le système SWIFT, c'est le système de règlement interbancaire, c'est ce qui permet aux institutions financières de communiquer dans un langage universel afin d'avoir des échanges économiques entre pays et entre banques. Et la banque agricole, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'est vue exclue de ce système SWIFT. Et donc Vladimir Poutine se sert de ce corridor céréalier comme d'un moyen de pression et de négociation pour essayer de faire réintégrer cette banque au système interbancaire. Conséquence de la sortie de cet accord, comme ça a été évoqué précédemment, ça fait peser de nouveau un risque de pénurie alimentaire et ça fait augmenter les risques de rupture au niveau des chaînes d'approvisionnement.
Et oui, et comme nous l'avons dit précédemment, certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient dépendent fortement de l'importation de ces productions agricoles. Il faut savoir que les céréales ukrainiennes ne sont pas uniquement exportées via la mer Noire. Pour comprendre cela, il faut retourner aux prémices de cette guerre. Peu après le début de l'invasion russe, la Commission européenne décide d'ouvrir des corridors terrestres afin de soutenir l'exportation des céréales ukrainiennes qui ne pouvaient plus l'être par la mer Noire. Des voies sont donc ouvertes à travers les pays de l'Union européenne, et depuis le début du conflit, ce sont 50% des céréales ukrainiennes qui transitent ou achèvent leur route en Union européenne. Cela soulève un problème sur les marchés. Les prix des céréales ukrainiennes sont bien meilleurs marchés que celles des céréales européennes, et certains pays se retrouvent en difficulté puisqu'ils craignent la concurrence pour leurs agriculteurs locaux. C'est notamment le cas de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie par exemple. L'Europe, pour soutenir ces pays, décide alors d'interdire les importations de céréales dans les pays de l'Est, dans le but de protéger leurs agriculteurs. Cet accord, et cet embargo donc, prend fin le 15 septembre dernier. Le problème, c'est que les pays de l'Est, à qui cet accord convenait, décident de bloquer unilatéralement leurs importations, malgré la levée de l'embargo qui a été faite par l'Union européenne. Cela remet sur la table les mêmes soucis. Rappelons que la Russie s'est retirée de l'accord céréalier. L'Ukraine ne peut pas exporter ou de manière restreinte ses céréales via la mer Noire et se retrouve donc dans une position de difficulté sur des corridors terrestres qui sont maintenant restreints également. Il reste à voir si les pays de l'Est décident de changer leur position afin de soulager le pays. Mais cela n'est pas assuré au vu de la dernière plainte posée par Volodymyr Zelensky auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre la Pologne. Les choses ne vont sûrement pas aller en s'apaisant.
Merci Lorena pour toutes ces précisions, c'est absolument passionnant. Bon, à l'aune de ce rapide tour d'horizon, on va faire une petite pause et on va revenir après une petite pause musicale. On aura l'immense honneur de recevoir Diane Mordac du Club Déméter. Ce sera l'occasion d'approfondir toutes ces questions, mais avant une petite pause musicale avec Harrison. Thank you. Vous êtes de retour dans l'émission Agro J'écoute sur Campus FM pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la guerre en Ukraine et à ses conséquences sur les marchés mondiaux et sur les systèmes agricoles mondiaux. Pour cette seconde partie, nous avons l'immense honneur de recevoir Diane Mordac du club Déméter. Bonjour Diane, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Agro J'écoute. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter à nos auditeurs pour quelle structure vous travaillez, à savoir le Club Déméter, et quel est votre rôle et vos missions au sein du Club Déméter ?
Oui, bien sûr. Alors le Club Déméter, en fait, c'est un lieu de réflexion et d'échange des dirigeants du monde agricole français. Le Club Déméter rassemble 83 entreprises et organisations professionnelles qui couvrent vraiment toute l'étendue du monde agricole et agroalimentaire. Et moi, au Club Déméter, je suis chargée des relations avec les adhérents et des projets.
Donc, bonjour Diane. La première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que la guerre en Ukraine a révélé et changé pour le modèle agricole de ce pays ? Au-delà de mettre aux yeux du grand public, bien sûr, que c'est un géant agricole, ce que peut-être certains pays ignoraient ou sous-estimaient d'ailleurs.
La guerre en Ukraine, en fait, donc, a révélé au monde entier que c'était un acteur très important dans les échanges, en fait, internationaux de matières agricoles. L'Ukraine, en fait, c'est un pays qui produit beaucoup et qui a une population qui est assez faible. Il y a 44 millions d'habitants, enfin, en tout cas, avant la guerre, il y avait 44 millions d'habitants. Et elle a une surface qui est plus grande, une surface agricole qui est plus grande que celle de la France. Donc ça permet à l'Ukraine de libérer en fait beaucoup de quantités sur les marchés internationaux. Et on voit que une bonne partie en fait du PIB ukrainien dépend de ses exportations. Donc en fait, avec cette arrivée de la guerre, d'un côté l'Ukraine a été privée de ses outils productifs, mais d'un autre elle a aussi été privée des voies d'exportation. Et sans ces voies d'exportation, on comprend qu'une grande partie de son PIB ne peut pas se faire, qui a donc plongé l'Ukraine dans une crise économique en plus de la crise liée à la guerre. Mais il faut savoir que cette crise économique n'est pas nouvelle en Ukraine. Déjà en 2014, avec les manifestations d'Euromaidan, le PIB du pays avait chuté de 7,5%. Et en fait, le PIB a retrouvé son niveau d'avant 2014, à partir de 2021. Et ensuite, 2022, début de la guerre en Ukraine, qui à nouveau perturbe totalement l'économie, au-delà des conséquences tragiques de la guerre, perturbe totalement son économie.
Donc, on comprend très bien, Diane, l'importance de l'agriculture pour ce pays-là, et notamment la nécessité d'exporter via des routes sécurisées. Et donc notamment, arrive de plus en plus la question des routes transeuropéennes qui ont été choisies pour exporter les céréales russes du fait que la mer Noire était maintenant plus sécurisée. On a vu que ça a créé des fortes tensions avec les pays de l'Est, notamment la Pologne, qui sont aussi des pays qui ont massivement soutenu l'Ukraine. Dans quelle mesure vous pensez que ces nouvelles tensions autour des questions des exportations de matières premières ukrainiennes via ces pays peuvent être de nature à remettre en question l'engagement de ces pays de l'Est, notamment la Pologne, pour soutenir l'Ukraine? Est-ce que ça peut créer des divisions au sein des alliés de l'Ukraine?
Oui, bien sûr, ça peut créer des divisions parce que chaque pays doit mener à bien son économie. Donc on voit que quand un conflit comme ça, au final, s'enlise, et maintenant ça fait 2 ans que la guerre a commencé, des pays qui soutenaient au tout début, enfin dès le début, l'Ukraine et qui continuent de la soutenir, peuvent avoir une sorte de lassitude en fait par rapport à l'aide apportée, puisque l'aide apportée a des conséquences directes sur leur économie à eux et sur la stabilité de leur société. Après, c'est totalement compréhensible et il faut bien sûr mettre en place des choses pour aussi prévenir les conséquences de la guerre, les conséquences indirectes de la guerre dans ces pays. Et il y a aussi une grande question autour de l'Ukraine et de sa potentielle adhésion dans l'Union européenne. Qu'on voit actuellement que l'Ukraine peut exporter donc sans tarifs douaniers et sans quotas vers l'Union européenne, ce qui serait aussi le cas si l'Ukraine rejoignait l'Union européenne. Après, bien sûr, ça a des conséquences, ça déstabilise les marchés européens, comme à chaque entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne, mais ça aurait aussi beaucoup d'avantages pour l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne gagnerait un grand producteur agricole. L'Union européenne actuellement importe, donc elle aurait au final en son sein le pays duquel elle importe beaucoup. Donc ça peut aussi renforcer les liens commerciaux, et on peut aussi, grâce à une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, s'assurer de la pérennité de ces exportations venant enfin, de l'Ukraine vers les pays de l'Union européenne. Après, c'est comme toujours dans un monde qui est interlié par beaucoup de choses, dont le commerce, eh bien, il y a toujours des moments où il faut ajuster, mais bon, les ajustements pourront tout à fait être faits, c'est sûr.
Merci pour ces précisions. Pour revenir sur notre première partie, selon vous, du côté de la Russie plutôt, qu'est-ce qui pourrait faire revenir Vladimir Poutine à la table des négociations, donc notamment pour le renouvellement d'un accord céréalier qui pourrait sécuriser l'Ukraine? Et peut-on espérer ce retour de décision de Vladimir Poutine selon vous?
Alors c'est compliqué de savoir ce que pense Vladimir Poutine, comme c'est compliqué de savoir ce que pensent les dirigeants en général. Au-delà des aspects techniques que vous avez abordés, comme le retour dans le système bancaire international, moi je pense qu'au plus profond, ce que Vladimir Poutine souhaite, c'est une reconnaissance en fait de la Russie comme une grande puissance, comme une puissance qui a un pouvoir d'influence. Et aussi la promesse peut-être de l'Occident de ne pas s'ingérer dans les affaires nationales de la Russie, tout comme dans son étranger proche, qui est une notion très russe. Et en fait, qui correspond, l'étranger proche de la Russie correspond notamment aux ex-républiques soviétiques, où en fait Moscou pense avoir en fait l'exclusivité de l'influence. C'est intéressant pour moi de relire ou de réécouter le discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007 lors de la conférence sur la sécurité. En parlant de l'OTAN, il disait que il lui semble évident que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle et nous pouvons légitimement nous demander contre qui cet élargissement est dirigé. Donc on comprend donc à travers ces mots que Vladimir Poutine se dresse contre en fait cette influence venue de l'Ouest et c'est ça pour moi la chose dont il veut se protéger, si je peux dire ce mot-là, dont il veut se protéger et il voudrait en fait, je pense, l'assurance de l'Ouest qu'elle n'interagisse pas près de ses frontières les plus proches, ce qui est totalement... Enfin, on peut pas. Ça reste les relations internationales. Donc, ça a beau être ce qu'il veut, les relations internationales se passent différemment et les pays de l'Ouest ont aussi le droit de s'approcher à l'Est.
Oui, oui.
Mais voilà, c'est ce qu'il souhaite.
D'accord, très bien. On comprend que c'est des enjeux très larges hein, et que la question agricole s'insère à travers des enjeux qui sont beaucoup plus larges. Mais c'est aussi un vecteur tout à fait important. Notamment, ce qu'on aimerait aussi que vous nous expliquiez un petit peu, c'est comment la guerre en Ukraine, hein, donc, qui a été le retour d'une guerre dite à haute intensité sur le continent européen, a été aussi le moment où est réapparue la question de l'arme alimentaire, hein, notamment avec tous les débats qu'on vient d'évoquer. Hein, l'arme alimentaire, est-ce que selon vous, c'est une dimension de la conflictualité qui avait complètement disparu? Ou c'est quelque chose finalement qui a toujours demeuré, mais que nous, société européenne pacifiée, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avons oublié?
Oui, bah, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, il faut se souvenir que la période de paix ne remonte pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il y a eu notamment la guerre du Kosovo entre 98 et 99, pardon, qui a fait plus de 10 000 morts, autant militaires que civils. Donc la guerre, en fait, n'a jamais été très loin. Là, on la retrouve en Europe parce qu'on l'avait pas connue en tout cas depuis 20 ans. Après, au niveau de l'utilisation de l'alimentaire comme une arme, ça a toujours, selon moi, ça a toujours été le cas. Le système d'assiéger une ville, en fait, c'est notamment pour pousser à bout sa population qui aurait plus accès à l'alimentation qui vient de l'extérieur de la ville, et donc pour la pousser à accepter des conditions qu'on lui proposerait. Après, c'est sûr que ce qui distingue notre période actuelle par rapport à ce qui a pu se passer avant, en tout cas, je parle de l'Europe parce que dans le monde, bien sûr que l'arme alimentaire est utilisée depuis toujours et tout le temps. Mais en tout cas, ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est qu'après une période en fait de relative stabilité dans nos récoltes, en fait, on voit aujourd'hui que avec le changement climatique qui est en toile de fond de vraiment tout ce qui se passe dans le monde. C'est difficile de prévoir les récoltes de demain, donc d'une année sur l'autre, on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Et donc cette instabilité qui est produite par le changement climatique, elle vient renforcer en fait cette utilisation de l'arme alimentaire par le Kremlin, parce que à l'inverse de plein de pays dans le monde qui sont touchés par des vagues de chaleur, des sécheresses, des pluies torrentielles et qui donc ont des conséquences néfastes sur la production agricole. La Russie, mais aussi comme le Canada, est peut-être l'un des pays dans le monde qui profite, et il faut vraiment mettre des grands guillemets à profit, mais qui profite en fait de ce changement climatique, parce que comme ils sont situés à des latitudes qui sont très élevées, ça permet de libérer certaines terres des glaces, etc. Bon, ça s'accompagne aussi de beaucoup d'effets négatifs, mais en tout cas, la Russie, avec sa grande taille et sa position sur le globe, a l'avantage que la majorité... que presque tous les autres pays dans le monde n'ont pas, c'est-à-dire de voir sa production agricole augmenter. Donc en fait, on voit que dans le monde, la production...
Vous nous présentez les gagnants, à savoir la Russie et le Canada. Est-ce qu'à l'inverse, le changement climatique en termes agricoles va diminuer les potentiels de certains pays? Et si oui, lequel? Et dans quelle mesure ça va redessiner la géographie des échanges agricoles? Est-ce qu'il y aurait des grands perdants avec le changement climatique d'un point de vue agricole?
D'un point de vue agricole, tout le monde est perdant, sauf pour moi ces deux pays. Et après, ces deux pays sont aussi impactés, hein, parce qu'ils sont pas que situés à des latitudes très au nord. Ils sont tellement grands qu'ils sont aussi à des latitudes plus basses. Mais bien sûr, tous les pays dans le monde sont touchés par le changement climatique. Après, ce qui va faire la différence au niveau mondial, c'est les outils que disposent en fait les pays. Et on voit malheureusement que c'est dans les pays les plus pauvres que les outils sont les moins diversifiés. Et donc ces pays ont un rapport au risque qui est beaucoup plus élevé que par exemple en France où les agriculteurs disposent d'une multitude d'outils. Donc ça va sans doute renforcer encore plus les divergences au niveau mondial entre pays entre guillemets plus pauvres et pays plus riches. Et voilà.
Pour revenir sur le blé, on voit qu'il y a une forte inflation sur le blé dernièrement. Donc pour vous, qu'est-ce qui ferait que le blé est une arme géopolitique? Qui dispose de cette arme? Vous avez déjà un peu répondu. Et pour continuer la métaphore, contre qui est braquée cette arme?
Le blé est une arme géopolitique parce que le blé est une ressource et comme je vous l'expliquais, il y a des tensions de plus en plus croissantes, enfin surtout des incertitudes sur le marché du blé, comme sur le marché agricole en général. Et en fait, quand il y a une ressource qui s'amenuise ou une ressource où on n'arrive pas à savoir vraiment de quoi on va posséder l'année d'après, en fait, ça crée une tension. Et la géopolitique, c'est vraiment ça. C'est en fait à partir du moment où il y a des tensions sur une ressource, on peut dire qu'il y a un sujet de géopolitique parce que qui dit tension sur la ressource dit tension entre les pays qui possèdent cette ressource ou non. Et comme je l'ai dit précédemment, comme le nombre de pays qui produit beaucoup de blé et qui dispose de quantités de blé exportables est assez faible dans le monde, et comme le blé est de plus en plus produit par un grand acteur qui est la Russie, du coup, ça fait que la Russie dispose de cette puissance au niveau du blé que d'autres pays n'ont pas ou n'ont plus, ou n'auront plus dans le futur assez proche. Donc, ceux qui disposent de cette arme, c'est bien sûr les grands producteurs qui ont la capacité d'exporter, et ceux vers lesquels l'arme est braquée, c'est les pays qui sont importateurs, notamment, je pense, les plus petits qui ont moins de poids dans les négociations.
D'accord, merci beaucoup Diane pour toutes ces précisions. Il va être l'heure de conclure et de vous remercier extrêmement chaleureusement pour votre venue dans l'émission. Diane, est-ce que vous pouvez nous préciser quand sort le prochain Déméter, la fameuse publication de votre club?
Alors, le Déméter va sortir en février 2024, ça sera la 30e édition, donc édition anniversaire. Et voilà, vous aurez l'occasion de le feuilleter, j'espère, et de découvrir tout ce qu'on y écrit.
Avec un très grand plaisir. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Diane de nous avoir fait l'honneur de répondre à nos questions. Ce fut pour nous une expérience assez originale de conduire ce podcast avec mon ami Lorena. Ça a été un travail de plusieurs semaines, mais qui nous a permis de mieux comprendre certains enjeux autour de la question agricole et des relations internationales. Reste aussi à remercier les partenaires de ce projet, l'école d'ingénieurs Purpan, l'université de Toulouse, mais aussi l'accueil chaleureux de la part de Campus FM.
Alors, merci à tous. Et enfin, surtout à vous, chers auditeurs. Et on vous souhaite pour finir une excellente journée. Bonne journée
excellente
à tous.
Journée.